Pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bentoussin au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Au micro de Judaïsme Pluriel, votre émission du jeudi de 19 à 20h. Ce soir, une start-up marseillaise, futur leader mondial dans son domaine. Avec Younes Lazrak. Il nous est arrivé dans nos émissions de parler de start-up aux États-Unis, au Canada, en Israël, ailleurs. Mais ce soir, nous parlerons d'une start-up de chez nous, à Marseille, et plus exactement à Lumini. Une start-up dirigée par notre invité, Younes Lazrak, que je remercie vivement d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir reçu dans ses locaux à Lumini pour préparer cette émission. De quoi s'agit-il ? Une vraie aventure scientifique, mais aussi une aventure humaine remarquable. J'ai connu Younes le 14 décembre dernier à l'Académie des sciences, des arts et des lettres de Marseille, où il était invité pour recevoir un prix pour son travail, un prix décerné conjointement par Ingénieurs et scientifiques de France et l'Académie de Marseille. Il y a des milliards de bactéries et micro-organismes dans notre environnement. Une bactérie est une cellule sans noyau avec une paroi. Pour se reproduire, les bactéries se divisent. Chez l'humain, il a été calculé que 10 puissance 12 bactéries colonisent la peau. 10 puissance 10 colonisent la bouche. 10 puissance 14 habite l'intestin, ce qui fait qu'il y a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans le corps humain. La plupart de ces bactéries sont inoffensives, voire bénéfiques et même indispensables pour l'organisme. Il existe cependant de nombreuses espèces pathogènes à l'origine de beaucoup de maladies graves. La bactérie pathogène Legionella pneumophila, responsable de la légionellose ou, plus exactement, la maladie du légionnaire, est à l'origine de environ 100 décès par an. Sa détection demande classiquement 10 jours, ce qui est un handicap pour intervenir spécifiquement et rapidement. La société C4 a Diagnostic, start-up située à Lumini et dirigée par notre invité Younes Lazrak, a mis au point une méthode de détection en 4 jours. Il nous confirmera, bien sûr. Cette start-up, spécialisée dans la détection des micro-organismes, met au point, par ailleurs, d'autres détections de bactéries, selon le même principe. Et c'est tout le travail, c'est tout ce dont on va parler ce soir. Bonsoir Younes, merci d'être venu. Bienvenue à ce micro et merci pour tous les auditeurs pour ce temps que vous allez leur consacrer, alors que, comme vous le dites avec raison, votre agenda vous occupe à 150%. Alors, si vous voulez, nous allons commencer, comme d'habitude, par vous présenter à nos auditeurs et regarder un peu votre parcours de l'état d'étudiant que vous étiez jusqu'à l'état de CEA. Alors là, je vais vous laisser le dire vous-même. Ça veut dire
C'est CEO, c'est l'acronyme anglais, et c'est pour Chief Executive Officer, en gros président.
Président, voilà, c'est ça. C'est le maître à bord, quoi.
Disons le conducteur à bord.
Très bien. Alors, si on regarde un peu, j'ai cherché un peu votre parcours. Alors, ça commence à l'Université de Strasbourg, où vous avez passé un DEUG BPC, bio, physique, chimie, de 97 à 99. Ensuite, Université de Strasbourg toujours, une licence de biochimie, 99 à 2000. Ensuite, toujours à l'Université de Strasbourg, une maîtrise de
Strasbourg.
Biochimie, comment ?
J'aime beaucoup Strasbourg.
Ah oui, ça se sent. Ah ben j'ai connu la région parce que mon père travaillait à Nancy et on allait souvent à Strasbourg. Alors ensuite, Université de Strasbourg, maîtrise de biochimie et biologie moléculaire. Ensuite, un master. Alors là, autre chose, master de gestion industrielle et innovation, toujours à l'Université de Strasbourg. Et là, on commence à sentir un peu ce que vous recherchez.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Bon. J'avais déjà une petite idée derrière la tête à ce moment-là.
On voit ça. Et alors ensuite, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans la vie active et vous allez dans une société qui s'appelle ULP de 2002 à 2003 et vous étiez en charge du transfert de technologie.
Alors, en fait, ce n'était pas une société. ULP, c'était pour Université Louis Pasteur et je faisais partie du département ULP Industrie, qui était le département chargé des relations avec l'industrie pour l'université. Et on faisait du transfert de technologie.
Transfert de technologie, ça commence déjà là. Alors, ensuite, vous êtes chargé de... Oui, toujours tout pareil, chargé de transfert de technologie de 2003 à 2007 et vous faites des analyses de faisabilité et de potentialité des projets de transfert. Ça, c'est très, très intéressant. On sent déjà votre direction. Alors ensuite, alors là, vous êtes enseignant en même temps, et vous enseignez, vous faites des cours de gestion de l'innovation au sein de Master 2, c'est ça ?
Alors oui, j'étais plutôt intervenant, c'est-à-dire que je m'occupais d'un module qui durait en fonction des promotions une vingtaine d'heures ou une trentaine d'heures. Mmh. Donc j'intervenais ponctuellement autant que professionnel qui venait partager mon expérience avec les jeunes étudiants. Donc je n'étais pas en tant que tel membre du corps enseignant, mais j'essayais de partager mon expérience avec les jeunes que ça intéressait. Mmh.
Alors ensuite, vous allez chez Protis Valor. Là, je ne dis pas société, je ne sais pas si c'est une société.
C'en est une.
C'en est une. Alors, de 2007 à 2010, alors c'est une filiale privée de l'Université de Marseille. Et là, vous vous chargez de la valorisation des résultats de recherche.
Tout
toujours
à fait.
Dans ce domaine où l'innovation est là et où on va essayer de la sortir de l'ombre. Mmh. Voilà. Alors, ensuite, on continue. On continue, vous êtes responsable IP, et je le dis à la française, responsable IP et licensing. Alors IP, c'est propriété industrielle, je suppose.
Tout à fait.
Licensing, c'est les licences.
C'est licence, les brevets. C'est le fait de transférer la technologie et c'est les contrats associés.
Bon, alors vous avez dû en voir des dossiers.
Ah, c'est ce qu'il y a de génial dans ces
Oui.
métiers-là, c'est qu'on est au plus près de la science, mais pas que de la science, de ses applications, notamment dans le domaine médical, du fait de pouvoir aider les patients. Et puis on reste dans le business aussi, ce qui a
Bien
aussi
sûr.
son degré d'intérêt.
Bravo, c'est bien. Alors ensuite, vous allez chez Quick Gain, c'est ça? Kiagen?
Alors, si vous le prononcez à l'allemande, oui, Kagen, mais
Kiagen.
en France, on prononce Kiagen,
Ah, ce que j'aime, oui.
qui est une société de biotechnologie très connue,
Oui, voilà.
d'origine allemande.
Et là, vous y allez donc de 2013 à 2015. Alors après, il y a quelque chose sur votre CV, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Julius Maximilian Universita Wiesbourg, c'est quoi ça?
Alors, c'est une université qui se trouve donc à Würzburg, en Allemagne.
Oui.
Si vous prenez une carte d'Allemagne et que vous essayez de mettre le doigt au centre, c'est à peu près là.
Ah oui.
Et en fait, pendant 2 années, j'ai repris mes études pour faire un MBA dans une université allemande,
Oui.
en anglais, parce que je ne parle pas très bien allemand, avec des résidences aux États-Unis, à Boston et en Floride.
Oui.
Mais donc, effectivement, pendant 2 ans, j'ai repris mes études en Allemagne en faisant des allers-retours depuis Marseille à coup de 15 jours là-bas.
Alors, vous en êtes là à environ 14 ans après votre fin d'études, 14 ans où vous avez déjà fait un gros parcours dans votre activité.
J'ai pas eu à me plaindre.
Et là, vous allez chez Clicktag. Et là, je crois que là, il y a vraiment un tournant.
Absolument.
Alors, Clicktag, parlez-nous de Clicktag.
Alors, en fait, il faut prononcer Click4Tag.
Oui.
En fait, c'est une start-up.
Clicktag, oui, c'est ça.
C'est une start-up marseillaise qui s'est créée fin 2014, début 2015, et qui avait en fait exploité une technologie qui avait été inventée par deux chercheurs, principalement un Marseillais et un Parisien, qui permettait de rendre visibles des bactéries, des pathogènes, de manière plus générale des micro-organismes. Et notamment, ils l'exploitaient pour faire de la qualité des eaux, détecter des bactéries dans les eaux environnementales, les eaux de bâtiments recevant du public, etc. Et donc, quand j'ai, entre guillemets, découvert cette start-up, je me suis dit immédiatement, c'est génial ce qu'ils font. Et si ça marche dans l'eau, ça devrait marcher sur des échantillons humains. Et c'est comme ça
Et
que
puis ça, c'est
l'aventure a
parti.
commencé.
Et là, vous étiez bien placé pour savoir si le projet était bon ou pas, parce que finalement, pendant 14 ans, vous avez tourné autour de projets.
Absolument.
Et
En
oui.
fait, j'ai appliqué finalement pendant des années, j'ai pour mes employeurs sélectionné les projets les plus intéressants, fait des analyses à 360 degrés autour de cela, la propriété industrielle, les applications, la robustesse de la science, des résultats obtenus, etc. Et un jour, j'ai décidé de l'appliquer pour moi-même. Et en fait, le fait de rencontrer Click4Tag n'était pas fortuit. C'est-à-dire que j'ai screené, comme on dit, c'est-à-dire j'ai
Oui.
analysé énormément de projets existants. Et à l'époque, j'avais un réseau, et j'ai toujours un petit peu un réseau plutôt international.
Vous
Donc,
m'avez parlé de Tokyo, vous avez parlé
tout
des
à fait.
États-Unis, etc.
Tout à fait. J'avais de bonnes relations avec l'Université de Tokyo. Donc, je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils avaient en portefeuille. J'avais de bonnes relations avec Stanford. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient en portefeuille. Et vraiment, le hasard a fait qu'une connaissance à moi m'a dit, mais est-ce que tu as discuté avec Sam?
Sam Doucan.
Sam Ducamp. Et je me suis dit, mais qui est Sam? Non, je ne le connais pas. Et en fait, il s'est trouvé que nous étions, d'un point de vue professionnel, quasi voisins, puisque les locaux de sa société étaient de l'autre côté du parking par rapport aux locaux de ma précédente société. Et donc, effectivement, on s'est rencontrés, j'ai analysé la technologie et par rapport à tous les projets que j'avais pu voir, celui-ci sortait clairement du lot. Et donc, là, on a commencé cette aventure. J'ai rejoint Click4Tag pour leur donner un coup de main et puis en même temps préparer la création d'une entité dédiée au diagnostic in vitro, au diagnostic médical, qui donc a été créée en 2017.
2017, et c'est la société C4
Voilà,
Diagnostic.
que nous
Alors,
prononçons si
en
fort.
résumé de votre parcours, je vous cite, vous dites, aujourd'hui en pleine aventure entrepreneuriale, les mots BD, licensing et IP, je dis à la française, résument mon expérience, mes intérêts professionnels et les différentes formations initiales et continues suivies avant de me lancer dans le challenge de créer. Alors, Ça résume bien tout ce qu'on a vu. Mmh. BD, ça veut dire quoi ?
Business Development.
Ah, d'accord.
Je suis désolé, dans mon secteur, on utilise beaucoup d'anglicismes.
Oui.
C'est pour faire...
Bon, Listening et IP, on a vu ce que ça voulait dire. Mmh. Voilà pour votre parcours. Et comme vous le disiez, 2017, vous créez ces quatre diagnostics. Alors, dans quelles circonstances vous avez créé ces quatre diagnostics ? Avec qui ? Comment ? Expliquez-nous ça.
Alors, en fait, ces quatre diagnostics, six fois diagnostics, on prononce ça à l'anglais, désolé, parce que ça a un sens aussi. Donc,
oui, mais je vais vous le demander tout à l'heure.
Nous l'avons créé à trois personnes. Sam Ducamp, Émilie Fugier et moi-même. Mm-hmm. Sam et Émilie travaillaient sur la technologie. Moi, j'avais un background qui était plus lié à l'industrie du diagnostic in vitro que j'avais fréquenté toutes les années précédentes. Et donc, en fait, on a décidé de conjuguer nos forces, de rassembler nos petites économies. On n'a pas lancé la société dans un garage, mais pas loin.
Ah ouais.
les premiers mois, je me souviens que je fréquentais assidûment les espaces de coworking pour pouvoir travailler sur tout ce qui était business plan, etc.
Oui.
Et donc, effectivement, progressivement, pendant à peu près un an, on a préparé le lancement. Et un jour, on s'est dit, il est temps d'appuyer sur le bouton. Mm-hmm. On pourra toujours préparer un peu plus, mais mm-hmm. maintenant, il est temps.
Alors, donc finalement, si j'ai bien compris, le concept, le principe même, c'est une étude du CNRS, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Et vous, votre travail a été de chercher, vous avez fabriqué un kit, on va y revenir, d'appliquer ce concept pour les patients. Voilà.
Tout à fait. En fait, pour vous résumer un petit peu la chose... Alors, sur mes fonctions précédentes, qui avaient des titres un peu compliqués, parce qu'on aime bien briller en société avec des titres trop compliqués, ma mère un jour m'a dit, mais tu sais, quand je discute avec mes copines, j'ai du mal à leur expliquer ce que tu fais. et je lui ai dit, mais tu sais, c'est très simple. Moi, mon travail, c'est de m'occuper des bonnes idées des autres et d'en faire quelque chose dans la vie réelle. Donc, effectivement, finalement, ça a été ça.
Ça a été ça. Mmh. Et donc, avec ces deux autres personnes, Émilie Fougier, et Sam Ducamp.
Tout à fait.
Bon.
Alors, en tout cas, c'était l'équipe de départ.
Depuis, oui,
d'autres nous ont rejoints.
Ça s'est étayé, bien sûr, on va en parler. Vous dites le principe, si on n'arrive pas à détecter les micro-organismes, pourrait-on lui adjoindre un marqueur qu'on pourra détecter ? En fait, c'est ça le travail que vous avez fait. Vous voulez bien nous l'expliquer ?
Tout à fait. En fait... Un micro-organisme, une bactérie par exemple, c'est extrêmement petit. C'est difficile à détecter parmi toutes les cellules humaines, parmi tout ce qui compose un échantillon humain. Et donc effectivement, on ne peut pas le détecter de manière simple. Donc nous, notre concept a été de dire, faisons finalement faire le travail au pathogène lui-même à notre place. On en a été paresseux. C'est l'invention de Sam Ducamp et Boris Vozel. C'était de dire, on va utiliser des sucres qui sont naturellement présents à la surface de ces micro-organismes et on va les fabriquer. Mais en les fabriquant, on leur fait une petite modification, on leur adjoint une espèce de petit hameçon. Et dès lors que nous avons ces sucres avec ces hameçons, quand on les donne à la bactérie, elle se dit, chouette, des sucres que je n'ai pas besoin de fabriquer moi-même, que je peux utiliser pour construire ma membrane. Ce qu'elle fait.
Et les hameçons sont totalement invisibles pour elle.
Et les hameçons sont totalement invisibles pour elle. C'est ce qu'on appelle une fonction bio-orthogonale. Ce n'est pas reconnu par le vivant. Mmh. Et donc, on se retrouve à la fin du processus avec des bactéries avec plein de sucre à leur surface, donc plein de hameçons. Et dès lors qu'on a des hameçons, on sait y accrocher ce qu'on veut par ce qu'on appelle de la chimie clique. Et donc, on y accroche, par exemple, une sonde fluorescente. Du coup, la bactérie qui était strictement invisible auparavant devient fluorescente et donc visible.
Et voilà. Vous avez rendu visible les bactéries invisibles.
Bravo, exactement.
C'est bien. Alors, ça vous l'avez expliqué. Et alors, vous me l'avez montré lorsque je suis venu chez vous. Vous m'avez montré un kit.
Alors, c'est un prototype. On n'est pas encore tout à fait sur le marché. Donc, effectivement, pour pouvoir commercialiser un kit de diagnostic in vitro, on parle d'humain, on parle d'un secteur où le droit à l'erreur n'existe pas. Donc, il faut quelque chose qui fonctionne parfaitement, quelque chose qu'on arrive à industrialiser, qui soit stable dans le temps, qui donne toujours les mêmes résultats, etc. Donc, c'est un travail de très, très longue haleine et sur lequel il y a énormément de contraintes réglementaires, à juste raison.
Bien sûr.
Donc, effectivement, Nous avons commencé les développements de notre kit en 2017, dès le départ, et on compte le commercialiser seulement maintenant en 2019. C'est un long travail. Et le kit comprend tout ce qu'il faut pour faire le test. Donc, effectivement, nos sucres ultra spécifiques, mais également les sondes fluorescentes, également un certain nombre de réactifs qui sont nécessaires. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette phase où on finalise les prototypes, et c'est ce que vous avez pu voir dans nos locaux, et où j'espère, où bientôt, nous aurons ces prototypes finalisés qui vont pouvoir passer en production de routine et passer par la phase validation clinique, donc un test en conditions réelles, pour pouvoir après être marqué CE et être autorisé pour l'utilisation clinique.
Bien. Alors, pour pouvoir faire ça, vous avez passé des accords avec les centres hospitalo-universitaires, parce que c'est eux finalement qui vous donnent des échantillons sur lesquels vous allez travailler, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire, au départ, on commence par travailler sur des bactéries isolées, pures, qui nous permettent déjà de valider le concept. Mais la vie réelle, ça n'est pas une bactérie pure et isolée. Nous, l'échantillon que nous utilisons, c'est du lavage bronchoalvéolaire. C'est une procédure où en fait, on met un petit peu de liquide dans le poumon, puis on le reprend pour pouvoir l'analyser. Et c'est pas propre, quoi. Ce n'est pas que de la bactérie qui revient, il y a des clairs, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir vraiment tester si dans la vie réelle ça fonctionne, on est obligé de travailler avec des échantillons réels. Donc, on développe un certain nombre d'accords avec un certain nombre de centres hospitaliers ou hospitalo-universitaires, de façon à pouvoir récupérer des échantillons et nous rapprocher le plus possible, ou pouvoir faire dans des conditions réelles nos développements, de façon à ce que le moment venu, on puisse rendre des résultats fiables.
Alors, j'ai vu le kit, c'est une toute petite boîte, et si j'ai bien compris, c'est relativement facile à utiliser. C'est ce que vous avez recherché?
Alors, on a recherché le fait qu'il n'y ait absolument pas besoin d'équipement qui ne soit pas courant dans les laboratoires. Je dirais pas facile à utiliser, mais je dirais au moins utilisable par n'importe quel laboratoire de biologie. On a quand même un certain nombre de réactifs, donc il faut un petit peu de temps technicien. Mais notre objectif était de dire, dès lors que vous avez une étuve à 37 degrés, ce qui est présent dans tous les laboratoires,
voilà.
Un poste de sécurité microbiologique pour en manipuler proprement, ce qui est présent dans tous les laboratoires, une centrifugeuse et des pipettes, vous savez faire le test.
Alors, votre kit va bientôt sortir, en tout cas je vous le souhaite, c'est sûr même. Comment ça va se passer? Qui est-ce qui fait les prélèvements? Qui est-ce qui va analyser? Quel va être le fonctionnement de la chose?
Déjà, un point sur la pathologie, la légionellose. C'est une pneumopathie assez grave, mortelle, dans 10% des cas. Petite correction par rapport à tout à l'heure, vous disiez une centaine de cas, c'est plutôt un millier de cas par an en France, et c'est malheureusement en train d'augmenter.
Un millier de cas, c'est plus, voilà, alors.
Un millier de morts, donc effectivement, c'est une maladie où, en règle générale, on se retrouve, en cas de suspicion, on se retrouve aux urgences, en soins intensifs. Donc, ça n'est pas une pathologie sur laquelle, on va dire, de manière courante, c'est votre médecin de ville qui vous envoie au laboratoire d'analyse médicale du quartier. On est dans l'hospitalier, on est dans des situations graves. Et donc, effectivement, le prélèvement est fait au niveau, par exemple, des services de soins intensifs, envoyé au laboratoire d'analyse de l'hôpital, en règle générale à proximité, et qui doit, le plus rapidement possible, donner un résultat. Donc aujourd'hui, il existe des méthodes de référence. Il en existe deux.
Quelles sont-elles, ces méthodes?
Sans
rentrer trop dans les détails, bien
non,
sûr.
Non, mais je vais essayer de faire simple. Si vous voyez un petit peu Louis Pasteur, les boîtes de pétri sur lesquelles on fait pousser des bactéries.
C'est ce que c'est, une boîte de pétri. Oui.
Voilà, c'est ça. Une boîte de pétri. On fait une culture avec un milieu spécifique et on attend en moyenne une semaine pour avoir un résultat. Et c'est un test qui est malheureusement très long pour une pathologie mortelle, où le temps d'incubation est de l'ordre de 7 à 10 jours et où, et qui en plus est extrêmement opérateur et échantillon dépendant. Dans la littérature, ce qu'on voit, c'est des sensibilités de 10 à 80%. C'est-à-dire que dans certains laboratoires, il n'y a que 10% des patients qui vont pouvoir être effectivement détectés en utilisant cette méthode-là. Dans d'autres, ça ira mieux, 80%, mais on manquera encore 20% des patients, ce qui est quand même problématique. Il existe heureusement des tests rapides. Et là, ça s'apparente à un test de grossesse. Un petit peu d'urine, on trempe la bandelette et on attend 5 minutes pour lire le résultat. Ça marche très très bien, ça ne met que 5 minutes, mais ça a un petit inconvénient, c'est que ça ne détecte que le sérogroupe 1 de la pathologie, et malheureusement, il y en a une quinzaine.
Ah oui.
Alors heureusement, le sérogroupe 1 est le plus courant, celui qui frappe le plus, mais on considère que les autres sérogroupes représentent, en fonction des lieux, des années, entre 20 et 50% des patients, qu'on ne détecte pas non plus. Donc effectivement, quelle que soit la méthode qu'on utilise, parmi les deux méthodes principales qui sont sur le marché utilisées par les hôpitaux, on manque encore des patients. Et ça a été la raison pour laquelle nous, on a décidé de se focaliser d'abord sur la légionellose. Mmh. C'était parce qu'on savait qu'on avait une réponse qui nous permettait de détecter l'intégralité des sérogroupes, et ce, de manière plus rapide. Donc on est à 48 heures. Nous espérons le confirmer lors de nos essais cliniques, des sensibilités le plus proche possible de 100%.
Bien, on va faire une petite pause musicale si vous voulez, Younes.
Avec plaisir.
Écoutez l'émission Judaïsme pluriel et je vous rappelle que ce soir, avec notre invité, Younes Lazrak, nous parlons de la société qu'il dirige, ses quatre diagnostics et la possibilité, avec son travail, de détecter des bactéries pathogènes. Alors, d'abord une petite question. Entre vous et moi, il n'y a que nous. Pourquoi avez-vous choisi cette pause musicale ?
D'abord parce qu'il y a beaucoup de rythme, et ensuite c'est une chanson que m'a fait découvrir mon jeune fils de 5 ans et demi, Sacha, donc un peu une dédicace, et en fait on est tombé dessus par hasard, et depuis tous les soirs avant de dormir, il me la réclame, on la réécoute tous les soirs, et je trouve que le rythme est très sympathique, puis ça nous parle d'un temps où les trains n'étaient pas exactement comme ceux d'aujourd'hui, même si c'était déjà la SNCF.
Comment s'appelle votre fils ?
Sacha.
Alors Sacha, si tu nous écoutes, on te fait passer un grand, grand, grand bonjour. Voilà. Et je suis avec ton papa, voilà, qui nous explique plein de choses. Alors, Younes, vous nous avez expliqué un petit peu le procédé, le processus, etc., le kit, etc. Et alors, le principe, c'est ce fameux sucre.
Tout à fait.
Est-ce que ce sucre est un sucre spécifique pour la bactérie de la légionellose ?
Alors, ce sucre-là, oui. Il est extrêmement spécifique, mais justement, on ne se repose pas que sur ce sucre-là. Nous avons, on va dire, une bibliothèque de sucres, certains qui sont semi-spécifiques, certaines bactéries, mais pas d'autres, les grammes négatives, mais pas les grammes positives, par exemple. Et nous avons ce que nous appelons notre sucre magique.
Parlons de ça.
Alors, notre sucre magique, c'est un sucre qui est capable de taguer, de rendre visible pardon, l'intégralité des micro-organismes, aussi bien les bactéries que les eucaryotes inférieurs, donc tout ce qui est infection fongique, mais pas les eucaryotes supérieurs, donc pas les cellules humaines. Donc on est capable de détecter l'intégralité des infections possibles chez l'humain grâce à ce sucre.
Et alors, quel est l'intérêt?
Alors, l'intérêt premier, celui sur lequel nous nous focalisons, c'est tout ce qui est antibiogramme. Je pense que pas mal de vos auditeurs ont dû entendre parler des problèmes d'antibiorésistance.
Oui, voilà.
Vous avez tous
J'ai
dû...
entendu dire les antibiotiques, c'est pas automatique.
Absolument. Et parce que le surusage d'antibiotiques, la surprescription ou la prescription à mauvais escient entraîne des résistances de ces bactéries. Et donc aujourd'hui déjà, pour réussir à guérir un patient, eh bien, il faut savoir si le pathogène qui l'infecte est sensible ou résistant. Et donc ça permet de donner des chances aux patients. Et puis le fait de ne pas utiliser d'antibiotiques large spectre de manière, on va dire, probabiliste, mais de donner le bon, permet de limiter ces problèmes d'antibiorésistance. Et c'est vraiment un problème de santé publique majeur. Pour donner juste un chiffre relativement récent, en Europe, c'est 33 000 morts par an. Comme nos amis américains aiment aussi compter en dollars, aux États-Unis, c'est 55 milliards de dollars par an de coûts pour la société. Et voilà. C'est ça qu'on essaye d'améliorer, parce que cette capacité à rendre fluorescentes des bactéries, en fait, on va pouvoir voir beaucoup plus vite si elles sont sensibles ou résistantes à un antibiotique en la mettant en présence de cet antibiotique. Et donc, on peut tout de suite, enfin pas tout de suite, mais beaucoup plus vite.
Alors beaucoup plus vite par rapport aux méthodes classiques d'antibiogramme, ça représente quoi? 3 fois, 5 fois?
On est dans les 3 à 5 fois plus rapide. C'est notre objectif pour le produit quand il sera complètement finalisé, mais nos premiers tests préliminaires nous montrent 3 à 5 fois moins de temps.
Et c'est très important parce que vous m'avez parlé du cas du sang et de l'infection du sang. Ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que
alors, c'est très simple. Ce qu'on appelait les chocs septiques, qu'on appelle maintenant sepsis, c'est une infection du sang, c'est une urgence absolue. Un retard de diagnostic, un retard de traitement d'une heure représente 4% de mortalité supplémentaire.
Donc, 4% par...
Par heure.
Par heure.
Par heure de retard. On ne parle plus de jours, là, on parle d'heure. Et donc, effectivement, pouvoir tout de suite dire c'est cet antibiotique-là qui va être efficace va permettre de sauver des vies. C'est un exemple que je prends parce qu'il est particulièrement frappant. Ça n'est pas le seul. Heureusement, pour les autres pathologies, c'est moins rapide. Mais ce facteur temps est vraiment essentiel pour la prise en charge thérapeutique du patient.
Ça va être votre produit phare, ça ?
Absolument. Disons que nous avons fait le choix de commencer par la légionellose parce que l'application avait été déjà développée par Cliff Fortag et sa filiale C4 Hydro sur la partie environnement. On a fait une transposition, mais clairement là où notre ambition est la plus importante, c'est sur les antibiogrammes. Et c'est là qu'on espère avoir le maximum de valeur ajoutée médicale et d'aider au maximum la communauté des patients et des cliniciens.
Et vous espérez sortir votre produit bientôt ?
Alors, je vous disais la légionellose 2019, on est en plein dedans. Fin 2020 pour le produit antibiogramme, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est des processus qui sont assez longs, où il faut optimiser beaucoup de choses. Et en plus, sur les antibiogrammes, c'est des tests qui sont pratiqués extrêmement souvent dans les hôpitaux. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de tests chaque jour dans un hôpital. Effectivement, il faut en plus qu'on automatise ce test pour qu'il puisse se faire sans problème dans les hôpitaux.
Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser. Vous étudiez des produits que vous voulez mettre donc en circulation dans les hôpitaux. Quelles sont les étapes que ces produits doivent passer pour être certifiés? Qu'est-ce qui se passe là?
De manière simple, il y a toute une phase sur laquelle je ne m'attends pas, sur le développement, qui est elle-même subdivisée en plusieurs phases. Donc, d'abord, on travaille tout seul. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une vérification analytique, c'est-à-dire qu'on va prendre, nous, nos produits, et on va vérifier s'ils détectent bien ce qu'ils sont censés détecter. Mais là, on est jugé parti.
Mais oui.
Donc, c'est pas suffisant.
C'est local.
Parce que c'est local, parce que c'est nous qui avons développé les produits, donc on sait comment les manipuler, etc. Et derrière, on doit faire ce qu'on appelle une validation clinique, donc en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on prend nos produits et on les donne à des hôpitaux en leur disant, en parallèle de vos tests habituels, faites nos tests. Et c'est eux qui, de manière indépendante, vont vérifier cliniquement si nos tests fonctionnent bien. Et ça nous permet d'obtenir en Europe un marquage CE qui nous autorise à commercialiser. Mais la même chose est vraie dans chaque grand territoire. C'est-à-dire que pour aller aux États-Unis, il va nous falloir une validation clinique aux États-Unis et un essai clinique américain.
Bien sûr. Et ces validations prennent beaucoup de temps. Combien de temps pour valider un produit?
Ça dépend vraiment. Ça va de quelques mois à une année.
Ah oui.
Parce qu'effectivement, parfois, on peut faire du rétrospectif, c'est-à-dire sur des échantillons congelés, on peut aller beaucoup plus vite. Soit on doit faire du prospectif, c'est-à-dire attendre qu'il y ait des patients
Bien
qui se
sûr.
présentent, qui acceptent que leurs échantillons soient utilisés pour valider
Ah, il faut demander aux patients.
il y a toujours un consentement éclairé.
Ah bon.
Même si en pratique, on n'intervient pas dans la procédure, parce que tant qu'on est en validation clinique, tant qu'on n'est pas certifié CE, le patient est traité en utilisant les anciens tests
Oui.
qui ont prouvé leur robustesse. Et nous, on va dire, un second test qui va éventuellement donner une indication au médecin, revérifier à deux fois. Mais en fait, le patient a le droit, et ça me semble plus que légitime, de savoir ce qu'on va faire des échantillons qu'on lui prélève. Et
Oui.
donc, systématiquement, il y a une demande de consentement éclairé.
D'accord. C'est souvent accepté, je suppose, pour les
En règle
patients.
générale, oui.
Oui, c'est
Mais
sûr.
effectivement, il
Il
faut le
faut leur
demander,
demander.
il faut expliquer.
Bon, eh bien, maintenant, je voudrais que vous nous parliez, puisque vous êtes en train de mettre au point tous ces produits. Comment ça va se passer lorsqu'ils seront validés? Comment vous allez distribuer? Comment vous allez vous organiser?
Alors, nous avons fait le choix de ne pas commercialiser nous-mêmes, de ne pas avoir notre propre force commerciale. D'abord, nous sommes tout jeunes, nous n'avons pas forcément beaucoup de moyens, on veut toujours plus. Et puis, surtout, nous voulons aller vite. Donc, travailler avec des gens qui sont déjà bien en place. Donc, nous mettons en place un réseau de distribution avec des distributeurs existants. Et pour moi, c'était très important, non seulement d'avoir un bon produit, mais aussi qu'il arrive dans les mains des cliniciens. Donc, on a commencé cette phase de pré-commercialisation avant même que le produit ne soit prêt. Nous avons signé un certain nombre d'accords de distribution dans un certain nombre de pays européens.
Ça s'est déjà fait.
Ça s'est déjà fait. Et on continue. On continue à étendre. Donc, pour l'instant, nous avons un certain nombre de pays européens qui ont pu signer, où on a des distributeurs qui se sont engagés avec nous, qui ont décidé d'investir du temps, des ressources humaines, etc., qui ont discuté avec leurs clients, laboratoires, etc., pour savoir si le produit était intéressant, comment il pourrait être utilisé chez eux, est-ce qu'il apportait vraiment une réponse médicale, etc. Et aujourd'hui, on est en train de constituer finalement tout ce réseau. Et commercial, mais également de potentiels partenaires cliniques, de potentiels partenaires de recherche, etc., de façon à être prêt et aller le plus vite possible le moment venu. Ça a été une des caractéristiques de notre jeune structure, d'aller très vite pour pas mal de choses, mais en essayant de faire les choses bien et en essayant surtout de les anticiper. Avec, bien évidemment, la loi de Murphy existe. Il y a des choses qui ont particulièrement bien marché, d'autres qui ont pris un peu de retard, etc. Mais je pense que c'est une des caractéristiques de notre société, d'avoir réussi à anticiper pas mal des points, sur lesquels d'autres ont pu trébucher ou prendre du retard.
Et votre société doit vraiment avoir une importance auprès de vos distributeurs, puisque finalement ils s'engagent avant même la validation.
Ah, il s'engage même avec des minimums d'achat, donc
Ah,
oui.
ouais. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose, ça. Je vous propose, parce que l'heure avance, on va écouter la deuxième pause musicale que vous avez choisie aussi. C'est Nina Simone. On va écouter tout de suite.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad.
Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I have done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Avec Younes Lazrak, nous parlons de la détection des bactéries et de ces fameux kits, et surtout de ces fameux sucres. Mais ce n'est pas le sucre qu'on met dans le café, je suppose.
Non, non, heureusement.
Très bien. Bon, alors, tout ce dont vous avez parlé représente un travail absolument formidable, un travail de recherche et développement, un travail d'application, etc., etc. Vous êtes combien dans votre société ?
Alors aujourd'hui, nous sommes 10 à plein temps, 12 en comptant les gens qui nous aident à temps partiel. Mmh. Bientôt, j'espère, 13, puisque depuis hier, nous avons mis une annonce en ligne.
Ah oui.
Donc effectivement, c'est une aventure humaine où on a constitué ce que moi j'appelle une dream team. Chacun avec son expérience, ses domaines de compétences, etc. Un gros volet R&D, 5 personnes en R&D.
Ouais, c'est important.
2 personnes en marketing et vente, une personne en opération, une personne en qualité, etc.
La qualité. Vous avez obtenu l'ISO 13485.
Absolument. On a été certifié ISO 13485 exactement un an après avoir commencé.
Bravo.
Pour la petite histoire, pour recruter notre futur responsable de qualité, j'ai pris une feuille blanche et je l'ai lui tendue et je lui ai dit, tiens, ça c'est notre système qualité. Je compte sur toi, il faut qu'on soit certifié d'ici un an. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait.
Vous avez fait un bon choix.
Elle a bien travaillé.
Ah oui, elle.
Elle et toute l'équipe. Parce que franchement, une certification ISO, ça n'est pas juste le travail d'une personne ou une décision d'un responsable. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on le ferait que c'était facile à faire. C'est l'intégralité de l'équipe qui a dû s'impliquer et qui s'est beaucoup impliquée et bien impliquée.
Alors, comme c'est une équipe fantastique, on peut peut-être donner leur nom ?
Absolument. Donc, au niveau R&D, nous avons Émilie Fugier, que vous avez cité tout à l'heure,
oui.
Audrey Raimondo, qui est ingénieur R&D, Sébastien Lospice, également ingénieur R&D, Manon Morellini, technicienne, Lucille Revillo, technicienne. Au niveau commercial, nous avons Stéphane Kwan, qui est le responsable, et Aurore Jean, qui est product manager. Côté opération et projet, nous avons Saïd Jamal. Et côté,
que j'ai rencontré, oui.
Que vous avez rencontré, effectivement. Et côté qualité, nous avons Inji Alameddine. Le tout est avec le support de Didier Noël, qui est notre directeur administratif et financier à temps partiel, et de Sam Ducamp, que je vous ai déjà cité. Donc une Dream Team, comme je vous disais.
Bravo, bravo, bravo. Mais dites-moi, pour faire fonctionner une telle entreprise avec sa recherche, etc., alors que encore les produits ne sont pas sur place et tout, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Alors comment avez-vous fait? Auprès de qui?
Alors, en fait, bon, il y a eu un petit peu d'argent qui a été mis par les fondateurs, mais clairement, ce n'était pas suffisant. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle un round Friends and Family, ce que certains appellent méchamment les 3F, Friends, Family and Fools, les fous. Donc, on en a eu un certain nombre qui nous ont suivis, qui ont été assez fous pour cela. Ils ont été rejoints par des business angels, notamment Angel Santé, qui est un réseau de business angels spécialisés en santé, Art et Métiers Business Angel, puis deux fonds d'investissement, Paquin Investissement, qui est géré par Turing Capital, donc, pardon, Région Sud Investissement, ça a changé de nom, R2V, qui est géré par ACG Management. Et par ailleurs, ce n'est pas énormément d'argent, mais c'est un point qui m'a tenu à cœur. On a aussi nos salariés, tout simplement, puisque en fait, ça a été un des points que j'ai négocié avec les financiers quand ils ont commencé à être présents dans notre capital, de dire, je souhaite que les acteurs au quotidien de la société soient également actionnaires. Donc on a un distribué, et on est en train de distribuer pendant les 2 prochaines années un certain nombre d'actions à nos salariés. Et par ailleurs, d'autres y ont cru tellement que bah, ils ont souhaité investir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, sur la douzaine de personnes que j'ai citées, on a 9 ou 10 personnes qui sont actionnaires.
Vous m'avez parlé aussi de, si je me trompe, vous me le dites, hein, BPI, je crois.
Tout à fait. La BPI, Banque pour l'investissement, c'est un organisme public qui apporte du support notamment aux sociétés innovantes. Donc nous avons reçu le support de BPI à 3 reprises. Au tout début, une aide à la faisabilité. Ensuite, quand nous avons levé nos fonds, nous avons pu bénéficier d'un prêt en amorçage qui, en fait, vient abonder les fonds levés auprès d'investisseurs financiers par de l'argent qui est prêté à la société par l'État et qui lui permet d'avancer plus vite et mieux. Et enfin, tout récemment, nous avons annoncé un nouveau support de la BPI sur notre programme Antibiogramme dont nous discutions tout à l'heure, puisque nous avons eu un financement aide au développement de l'innovation qui vient de se mettre en place. Donc aussi un fort support des pouvoirs publics. Et puis, pour la petite anecdote, un des supports que moi j'ai trouvé fort sympathique, et c'est rare qu'un allocataire le dise, mais moi j'ai beaucoup aimé Pôle emploi, qui m'a permis de maintenir un peu de revenus pendant qu'on montait la société, que je n'avais pas d'autres sources de revenus, etc. Et donc, moi je suis un allocataire content.
Bravo pour Pôle emploi. On parle beaucoup de mal de Pôle emploi, mais là on entend du bien. C'est vrai, c'est très bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et je disais dans mon introduction que c'était une aventure humaine. Je voudrais que vous nous parliez de ça, de cette création-là où vous avez dynamisé les gens, où vous avez motivé les gens.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai motivé les gens ou si nous sommes co-mutualisés ou intermutualisés plutôt. C'est vrai que, en fait, il y a eu énormément d'implications de chacune des personnes et quelques belles histoires. Déjà pour vous dire, on va dire des responsables de département chez nous habitaient en région parisienne et ont décidé, parce que le projet leur plaisait, parce qu'ils avaient rencontré l'équipe, parce que bah, de déménager avec femmes, enfants, bagages, ou femmes, chiens, bagages, pour l'un qui n'avait pas d'enfant, en région marseillaise. Je n'ai évidemment, on n'a pas de pointeuse chez nous,
Il y a une machine à café.
il y a une machine à café, bien évidemment. C'était mon premier investissement. Une machine qui moule le grain, qui nous fait un excellent café. Il y a une bouilloire pour le thé et tout ce qu'il faut.
J'atteste, j'en ai bu.
Et effectivement, bah, les gens s'impliquent. Quand il faut revenir le dimanche pour lancer une culture, les gens reviennent le dimanche pour lancer une culture. Quand il y a besoin d'un coup de collier, J'ai énormément de chance d'avoir l'équipe que j'ai autour de moi. Je sais pas si eux, ils ont de la chance de m'avoir à leur tête, mais c'est vrai, c'est une aventure collective, clairement. Et c'est pour ça aussi que le côté actionnariat des salariés me tenait à cœur. C'est pas quelque chose qu'on construit tout seul. Le jour où nous nous sommes rencontrés, si vous vous souvenez, j'ai eu ce fameux prix et j'ai prononcé un discours
Oui.
de remerciement. Et ce discours de remerciement, c'était clairement de dire, je suis juste la face visible de l'iceberg.
Oui.
Et clairement, c'est le travail des autres qui est récompensé, pas le mien.
Ah ben d'ailleurs, j'ai retenu une de vos phrases. Si ça marche bien, c'est grâce aux autres. Si ça marche mal, c'est de ma
Tout
faute.
à fait. Là, par contre, effectivement, il faut que j'assume mes responsabilités.
Oui, parce qu'en fait, finalement, votre travail, c'est quoi?
Alors, mon travail, c'est d'être le blabla guy, de parler beaucoup. Non, j'exagère. Non, mon travail, c'est de donner les moyens à l'équipe de faire son travail, c'est-à-dire effectivement d'aller leur chercher les moyens financiers, les moyens matériels, etc. De leur donner une direction,
C'est important.
c'est très important. Mais effectivement, les deux vraies composantes de mon travail sont celles-ci. Donner une direction, et une fois que la direction est là, bah, il faut des rames pour ramer. Et donc effectivement, aller chercher des fonds, aller chercher des partenaires industriels pour fabriquer nos produits, des partenaires commerciaux pour les vendre, des partenaires cliniques pour les valider, etc. Donc chercher, amener ces moyens pour permettre à l'équipe d'exprimer tout le potentiel de ces technologies qui est une perle que nous avons entre les mains et nous pensons que nous pouvons vraiment apporter quelque chose. Puis on a la chance de travailler dans un secteur où on peut être fier de ce qu'on fait si ça marche.
Je comprends.
Enfin, moi, j'espère raconter à mes petits-enfants, tu sais, grâce au travail de ton grand-père, on a sauvé des vies.
Ça marchera, ça c'est certain.
Je croise les doigts.
Je vous remercie beaucoup, l'heure est passée. On a passé une heure très 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 bien où on a appris énormément de choses.
Merci
Merci mille
Roland.
fois d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Peut-être à une autre fois. Peut-être lorsque vos produits seront validés, on fêtera ça.
J'espère.
Bonsoir, chers amis, à la semaine prochaine.
Réalisée et animée par Roland Bensoussan.